France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Jeudi dernier, 27 novembre, en visite à la 27e brigade de l'infanterie de montagne de Vars, près de Grenoble, le chef de l'État a annoncé la création dès l'été prochain d'un service national. Après un mois de formation, les volontaires de 18 et 19 ans pourront être déployés sur le territoire national pour des missions de sécurisation, d'assistance aux populations ou encore d'appui aux armées. Suspendu en 1996 par Jacques Chirac, ce retour d'un service militaire témoigne d'une militarisation progressive de la société française depuis une dizaine d'années, entre l'annexion de la Crimée de 2014 et les attentats perpétrés sur le territoire européen. Alors le service militaire redevient-il acceptable ? Un invité ce soir pour nous éclairer, Maxime Launay, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, chercheur à l'IRSERM et auteur de cet ouvrage intitulé « La gauche et l'armée de mai 68 à nos jours », un ouvrage qui a paru il y a quelques semaines aux éditions du Nouveau Monde. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir.
L'accélération des crises, le durcissement des menaces me conduisent à proposer aujourd'hui un service national purement militaire qui, sans être universel, peut engager toute une génération. Je veux ici insister sur le fait que le service national concernera seulement des volontaires et le cœur sera constitué par les jeunes âgés de 18 à 19 ans. Ce service poursuit trois objectifs précis. Renforcer le pacte noué entre notre nation et notre armée. Renforcer la capacité de résistance de notre nation. Consolider la formation de nos jeunes.
Il faut commencer par les mots employés par le président de la République qui s'exprimait le 27 novembre dernier. Il parle de service national et non de service militaire, Maxime Launay. Alors, quelle distinction entre les deux expressions ?
Oui, effectivement, il faut distinguer ce qui relève de l'engagement volontaire du service national d'antan, qui était un service obligatoire. Et je pense que ça renvoie aujourd'hui à toute une série de travaux sociologiques qui montrent qu'il y a une appétence d'une partie de la jeunesse. Alors, il y a des jeunesses, évidemment, mais d'une partie de la jeunesse à l'engagement. Je pense notamment aux travaux de la sociologue Anne Muxel, qui montrent qu'en fait, pour beaucoup de jeunes, l'armée peut être un lieu de ressources. Des ressources pour l'emploi, des ressources pour des compétences transversables ensuite dans le marché de l'emploi. Et c'est aussi une perception qui peut être positive par les jeunes de l'institution militaire, parce qu'elle rassure, parce qu'elle correspond aussi à des missions qui ne sont pas nécessairement des missions combattantes comme on les imagine avec les guerres mondiales par exemple, mais des missions de maintien de la paix, d'intervention face à des catastrophes, qu'elles soient humanitaires, sanitaires ou environnementales. Et donc cette institution qui protège, elle est aussi le réceptacle des peurs ou des projections des jeunes aujourd'hui qui, si on reprend le train depuis 2015 avec les attentats,
la tendance,
la tendance depuis les années 2010, les attentats, la crise de Covid, fait de l'institution militaire une institution assez appréciée des jeunes.
Les mots du président de la République, toujours, il explique, je cite, « Nous avons besoin de mobilisation de la nation pour se défendre, pas contre tel ou tel ennemi, mais pour se tenir prête et être respectée. » Est-ce qu'on est là dans un objectif de dissuasion ?
Alors, c'est là toute la difficulté, parce que si on renvoie à cette séquence un peu plus générale avec les propos du chef d'état-major des armées, le général Mandon, qui ont fait beaucoup réagir, notamment sur être accepté de perdre nos enfants, la question c'est de savoir de quels enfants on parle. Est-ce que ces enfants, ce sont les soldats professionnels, l'armée que nous avons d'ores et déjà depuis la fin des années 90 avec la suspension du service national, ou est-ce que c'est la mobilisation de tous les enfants, qui renvoie cette fois-ci à un imaginaire très précis, à une histoire bien située, qui sont les deux grandes guerres mondiales notamment, puis les guerres de décolonisation, où là pour le coup les appelés étaient fortement mobilisés.
Mais vous répondez à moitié à ma question, si je puis dire, lorsque le président de la République, je le répète, dit pour se tenir prête et être respecté. Est-ce que recruter 3000 jeunes de 18 à 19 ans, cela empêchera la Russie d'attaquer d'une manière directe ou indirecte, bien sûr, la France ?
La dissuasion en France est d'abord une dissuasion nucléaire. Donc c'est une dissuasion, si l'on peut dire, technologique. Pour autant, tel que cela a été conçu, on l'a un peu oublié, dans les années 60 par les gaullistes, dissuasion nucléaire s'articulait avec dissuasion populaire. C'est-à-dire qu'au-delà de la technologie de l'atome, il faut aussi montrer la volonté nationale de se défendre. Et dans cette idée-là, le peuple intervient. Il intervient notamment à travers les jeunes qui sont les combattants par excellence. Et donc c'est sans doute à cela que cela renvoie. Dans le cadre de scénarios, par contre, il faut le préciser tout de suite, ça a été dit par le président de la République, qui ne sont pas ceux d'un envoi, d'un contingent de jeunes qui iraient combattre sur le flanc est de l'Union européenne en cas d'attaque de la Russie, par exemple d'un pays balte, mais bien de la défense du territoire national et non pas au-delà des frontières.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va leur demander très concrètement à ces 3000 jeunes qui s'engageraient dès l'été prochain? À plus long terme, je le précise, les armées entendent toucher 10 000 jeunes par an, puis 42 500 à partir de 2035. Quelle mission va-t-on leur confier?
C'est pas évident de le comprendre parce qu'effectivement, là encore, dans nos représentations, évidemment, des militaires sont d'abord dans des missions combattantes immédiates. On le voit en Ukraine aujourd'hui pour les Ukrainiens avec un front. Là, c'est pas ce qui est projeté, il faut bien l'expliquer. Pourquoi ? Parce que si vous avez, on est toujours dans une logique de scénario, si vous avez un départ de l'armée professionnelle sur le flanc Est, il faut bien continuer à protéger le territoire national. On sait aujourd'hui qu'il y a des actions agressives, qu'on qualifie parfois d'hybrides, qui sont des actions de sabotage, de tentatives d'assassinat, d'attaques d'infrastructures sensibles et vulnérables. Ça peut être des nœuds ferroviaires, ça peut être des points, des infrastructures militaires et civiles. Et donc, ça peut être donc en fait des missions de protection de lieux. Ça peut être aussi des missions type sentinelle qu'il faudra assurer le cas échéant. Tout ça participe aussi donc de ce service national, avec notamment l'idée que ces volontaires intégreront ensuite les réserves.
Chose plus surprenante, ou pas d'ailleurs, Maxime Launay, vous nous le direz, il y a quelques mois encore, tout le spectre politique, peu ou prou, semblait relativement d'accord avec cette idée d'un service militaire, service national. C'est selon les modalités, selon, j'allais dire, les ambitions politiques de chacun. Mais il y avait une forme de consensus quand même sur l'idée d'un service national. Et là, la déclaration, l'annonce du président de la République a suscité des critiques impressionnantes. Comment vous l'expliquez ?
Après la suspension du service national acté en 1997 et terminé en 2001, le dernier conscrit quitte la caserne en 2001, il y a eu le sentiment dans la classe politique qu'il y avait un vide qui avait été provoqué par cette décision et qu'il fallait combler ce vide. Et donc pendant très longtemps, on a essayé de trouver des solutions. On a créé un service civique, par exemple. On a créé aussi en 2019 un service national universel. On était plutôt dans une logique citoyenne et civique. Et puis, du fait du contexte, finalement, on s'est dit qu'il fallait plutôt un service militaire. Donc les partis, qu'il s'agisse de la gauche, par exemple, je pense notamment à la France Insoumise, qui était favorable à un service citoyen. À droite aussi, il y avait plutôt un consensus là-dessus. Mais il ne faut jamais oublier que même si les questions militaires sont des questions existentielles, donc on imagine souvent qu'elles se placent au-dessus de la querelle des partis, il n'en reste pas moins qu'il y a un jeu politique qui fait que les idées et les programmes se confrontent. Et le président Macron étant aujourd'hui largement affaibli, eh bien, je pense que ce jeu politique est en train de revenir. Et on le verra, à mon avis, très certainement dans les débats parlementaires dans les semaines à venir.
Et puis, il y a par ailleurs un groupe d'acteurs, les organisations de jeunesse, qui sont extrêmement critiques à l'égard de ce service national. Est-ce le seul projet que nous avons pour notre jeunesse? C'est peu ou prou là ce qu'elles expliquent. Comment, là aussi, accueillir cette critique? Est-ce que la militarisation d'une partie de la jeunesse, est-ce aussi parce que on n'arrive pas parfois à proposer à la jeunesse de France, aux jeunesses de France, un véritable projet, une véritable ambition pour l'avenir?
Oui, c'est effectivement un vrai problème. On le sait depuis la crise du Covid, beaucoup de jeunes souffrent dans leurs études, souffrent aussi sur le plan psychologique. Il y a toute une série d'aides et dispositifs qui sont mis en place, mais on voit bien qu'il y a ce problème qui se pose. Et donc, nécessairement, la réponse ne peut être que militaire. Pour autant, à partir du moment où on est sur une logique de volontariat et pas d'obligation, comme ce fut le cas par le passé, on peut s'interroger si cela pourrait créer, comme moi je l'ai vu et je l'ai étudié dans mon livre sur la crise antimilitariste post-68, où c'était vraiment un vrai sujet de combat où les organisations militantes de jeunesse allaient dans la rue contre le service national. Il y a des centaines de milliers de jeunes qui manifestent en 1973 contre une loi sur le service national. Est-ce qu'on ira là-dessus à partir du moment où on est sur le volontariat? Je n'en suis pas certain.
Au fondement même, au principe même idéologique du service national, il y a peut-être une idée, celle de renouer le lien distendu entre population et armée. Depuis quand ce lien est-il à ce point distendu ?
Alors, l'historien va tendance à vous dire que ça fait depuis assez longtemps. En fait, depuis,
alors, remontons le temps, justement.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et a fortiori depuis la fin des deux guerres de décolonisation, donc Indochine-Algérie, il y a trois critères qui nous montrent que cette distance s'est accrue. D'abord, un critère tout simplement budgétaire. On sait que ça compte surtout aujourd'hui. Si on prend, par exemple, la part des dépenses militaires dans le PIB, on était en 1952, donc on était dans un temps de guerre. C'était la guerre d'Indochine, on était à 7,2% du PIB pour la défense. Aujourd'hui, on est à 2%. Autre critère, la présence des militaires sur le territoire, le maillage territorial. Aujourd'hui, on parle de désert militaire comme on parlerait de déserts médicaux. Il y a toute une série de départements où les Français ne sont jamais en contact avec les militaires. Et donc ça aussi, ça joue de cette distance. Et puis, troisième élément, c'est tout simplement le fait qu'il y ait moins de militaires dans notre population. Si on regarde dans les années 60, il y avait à peu près, pour 100 actifs, il y avait 6 militaires. Aujourd'hui, pour 100 actifs, il y a moins de 1 militaire. Et ça a été accéléré par la disparition du service national.
Est-ce que ce lien, il s'entretient aussi par une forme d'admiration de la population pour l'armée? Je veux dire qu'on pourrait imaginer une armée rétrécie au plus petit d'elle-même et dans le même temps une population française qui, dans son ensemble, aime son armée, éprouve de l'admiration pour son armée. Est-ce que là aussi, dès les années 50, ce lien d'admiration ou peut-être ce lien, j'allais dire, de soutien se réduit à l'égard de l'armée?
Alors, on a un contexte politique abrasif dans les années 60. La guerre d'Algérie fait entrer définitivement les militaires en politique, avec un moment terrible et qui a provoqué une rupture de confiance durable, qui est le putsch des généraux de 1961. Et donc, il a fallu beaucoup de temps pour que l'armée sorte de cela, de cette ornière, et procède à une sorte d'aggiornamento dans sa communication, dans son lien avec les armées.
Avec 58, c'est aussi le retour du général de Gaulle.
Alors, effectivement, le général de Gaulle, qui est à la fois chef de guerre, mais aussi le constituant. Et donc, le général de Gaulle a créé une république, qui est une république aussi, avec une forte dimension militaire. Donc, c'est certain que les militaires n'ont jamais quitté tout à fait le spectre politique, mais avec une subordination des militaires aux civils très prononcée depuis le général de Gaulle.
Quel est l'impact de mai 68 sur ces liens entre la population française et son armée?
Mai 68 vient cristalliser le choc entre deux dynamiques. D'un côté, une institution militaire immobile, réduite à l'Hexagone après avoir quitté l'Empire et qui se projette difficilement vers une potentielle guerre avec l'URSS. Une armée qui perd de ses moyens, où tout est tourné vers la dissuasion nucléaire, donc une armée peu attractive. Et de l'autre côté, une société française en plein bouleversement, en plein bouillonnement. C'est la société des Trente Glorieuses, la société des années 60, la société donc de mai 68. Et donc cette confrontation, elle va être difficile et elle passe par une crise antimilitariste au Larzac, en Polynésie avec les essais nucléaires, ou dans les casernes pour les jeunes appelés du contingent.
Vous avez parlé du Larzac, alors donnons la voix à un paysan et remontons le temps 1972. Il se situe justement sur le Larzac et c'est une archive INA de l'ORTF du 13 juin 1972.
Localement, nous avons aussi bien le soutien de tout l'ensemble des maires de l'Aveyron, de tout l'ensemble du conseil général, de tout, aussi bien les partis de gauche que de l'évêque, tout le monde se trouve rassemblé autour de nous pour nous soutenir. Alors face à cette masse qui est contre cette extension de projet du camp militaire, il est sûr que l'armée se trouve devant un problème très grave dans la mesure où elle veut rester en contact avec l'ensemble des Français.
Qu'est-ce que le Larzac représente, Michel Launay? Est-ce que c'est un tournant véritable dans l'antimilitarisation de la société française?
Ah oui, tout à fait. Le Larzac, c'est vraiment un moment essentiel pour comprendre ce rapport à l'armée. C'est là où se cristallisent en fait toutes les gauches libertaires, non-violentes, inspirées par Gandhi, qui prônent la désobéissance civile et qui ne veut pas entendre parler de ce projet d'extension d'un camp militaire. Pourquoi? Parce que là encore, c'est cette armée qui a dû quitter l'Empire et qui essaie de trouver de la place, qui essaie de faire des manœuvres. Et donc là encore, c'est deux mondes qui s'entrechoquent. L'extrait que vous venez de passer est en 1972. C'est intéressant, juin 72, parce que c'est aussi le moment où est signé l'accord de l'union de la gauche, du programme commun. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi une gauche de gouvernement qui va se saisir de cette question. François Mitterrand va se rendre sur le plateau du Larzac. Et il va faire une promesse, c'est d'annuler ce projet. Promesse qu'il tiendra en 1981 lorsqu'il sera élu.
Vous nous dites, Maxime Launay, le Larzac, c'est là où tout se cristallise. Mais est-ce que le Larzac, dans son esprit, dans sa volonté de combattre l'armée française, essaime par ailleurs dans la société française? Ou bien, dans le fond, le Larzac concerne d'abord et avant tout des marges politiques bien situées?
Oui, alors l'antimilitarisme a toujours été minoritaire. On le voit dans les enquêtes d'opinion, mais par contre, il correspond à certains segments de la population. Segments jeunes, tout d'abord, en tout cas une partie de la jeunesse, disons la jeunesse scolarisée et étudiante. Segments aussi politiques, c'est aussi la gauche qui se retrouve, mais pas toute la gauche, mais une partie de la gauche. C'est la gauche insoumise, qui prône l'insoumission, l'objection de conscience, voire parfois pour certains, mais ils sont encore plus minoritaires, la désertion. Donc je ne dirais pas que c'est représentatif de l'ensemble de l'opinion publique, mais c'était quand même très prégnant dans les médias et dans certains partis politiques.
Et la gauche écologiste dans tout cela, quel rôle joue-t-elle par ailleurs dans cette anti-militarisation et ce mouvement général? Elle est éminemment liée au Larzac, bien sûr.
Bien sûr. Alors à l'époque, il n'y a pas d'écologie politique encore. Il faut attendre les années 80 pour qu'il y ait des organisations politiques en tant que telles. À l'époque, c'est une nébuleuse faite de groupuscules, d'organisations, de mouvements plutôt plus ou moins spontanés. Mais évidemment, elle se retrouve et l'une des racines importantes de l'écologie, c'est la lutte contre la militarisation. C'est un des grands thèmes des années 80. Aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'écologie a beaucoup évolué sur ce sujet.
Comment cette critique de l'armée française atteint-elle finalement le service militaire lui-même et le fait de recruter chaque année, des jeunes et toute une génération de jeunes?
Alors, à l'époque, arrivent sous les drapeaux, comme on disait, des jeunes qu'on appelle les baby-boomers. Donc, c'est-à-dire une nouvelle génération qui n'a plus du tout le même rapport à l'institution militaire par rapport aux générations d'antan qui avaient connu la guerre 14-18 ou encore la mobilisation de 39. On est dans un moment anti-autoritaire où on pense le monde de façon beaucoup plus horizontale que par rapport à la verticalité. L'armée représente la hiérarchie, la discipline, l'ordre. Et donc, c'est vraiment...
Ouais, c'est les réminiscences idéologiques de 68, de mai 68.
Ah, tout à fait. Et là, vous avez des penseurs qui s'en saisissent. Erving Goffman, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, ou en tout cas les Bourdieusiens, pensent l'institution comme une institution, l'institution militaire comme une institution totalitaire. De la même manière qu'on pense les prisons, qu'on pense les écoles, qu'on pense les asiles, eh ben, on pense aussi l'armée comme une institution totalitaire. C'est le mot de l'époque à propos de l'armée.
Que se passe-t-il dans les années 80-90 dans les lycées? En quoi représentent-ils également ces lycées, le secondaire d'une manière générale, un havre de contestation à l'encontre de l'armée française?
Alors ça dépend toujours les lycées et les jeunesses dont on parle, et c'est certain que la géographie nous apprend beaucoup de choses. Mmh. Mais tout de même, pour avoir passé beaucoup de temps dans les archives, je me suis aperçu que le contact pouvait être un peu rugueux entre des militaires, des officiers qui entraient dans les lycées pour présenter un peu les métiers par exemple, et des jeunes qui n'étaient pas du tout réceptifs à ce type de discours. Et j'ai par exemple trouvé des notes de services de renseignement qui expliquent comment les militaires sont accueillis par des jets d'œufs ou de grenouilles, où leurs voitures sont cassées, taguées, etc.
Donc, ça, de grenouilles?
Oui, vous savez, on faisait de la dissection à SVT, donc il y avait toujours des grenouilles qui pouvaient être ici ou là. Donc les militaires l'ont assez mal vécu parfois, cette rencontre avec les jeunes dans les lycées. Ça ne s'est pas toujours passé comme ça, évidemment.
Il faut évoquer évidemment les années 90, et avant de parler de la décision de Jacques Chirac, l'état de cette armée et du service national et militaire dans les années 90. Dans les années 90, l'armée française est appréciée, mais incomprise. Elle est réduite à un symbole, c'est cela ?
En fait, y a un changement important de contexte à ce moment-là, c'est la fin de la guerre froide, et donc on commence à s'interroger sur l'utilité d'un service national à partir du moment où la menace semble avoir disparu. Par ailleurs, il y a un autre événement qui est la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, on fait le choix de ne pas envoyer les conscrits avec l'armée professionnelle. Et donc là, on se pose la question, mais en fait, et même les militaires se posent la question, à quoi ça sert tout ce qu'on fait si ces soldats appelés ne sont pas envoyés. Donc on commence à réfléchir à partir de ce moment à suspendre le service national, mais la décision n'est prise qu'en 1996.
Pourquoi Jacques Chirac? Comment Jacques Chirac finit-il par prendre cette décision? Il a dû être traversé par beaucoup, beaucoup d'injonctions contradictoires au sein même de l'État, en tant que chef de l'État, mais chef des armées surtout.
Oui, ça a été une décision difficile. Ça a été bien étudié par un politiste qui s'appelait Bastien Hirondelle. En fait, le service national était une forme de totem dans la classe politique. Beaucoup savaient et penser intérieurement qu'il fallait le suspendre. Pierre Messmer, qui a été le grand ministre des armées du général de Gaulle, par exemple, a toujours maintenu le service national lorsqu'il était aux responsabilités, mais il n'en pensait pas moins. Charles Hernu, le premier ministre de la Défense socialiste sous François Mitterrand, était contre le service national. Il l'a maintenu parce qu'il savait que les forces politiques n'étaient pas d'accord et que l'opinion ne le comprendrait pas. Donc il a vraiment fallu qu'il y ait ce changement de contexte stratégique. Et puis aussi l'idée que la jeunesse ils voyaient de plus en plus un service inégalitaire, un impôt du temps coûteux, pour que finalement, ils le proposent.
Un service inégalitaire, je voudrais justement que l'on revienne sur ce grand mythe, celui du brassage à travers une autre archive. Celle-ci date de 1965. Elle permet d'entendre la voix d'un jeune conscrit, Pierre Pucier.
Vous avez été mêlé à des ouvriers, des paysans, autant de gens que vous ne connaissiez pas dans le civil.
C'est exact.
Est-ce que ça vous a apporté quelque chose ?
C'est-à-dire que apporter quelque chose, je ne vois pas très bien le sens là, de la question.
Je veux dire qu'avant, vous ne les connaissiez pas, ces gens-là. Maintenant, est-ce que vous les sentez mieux ? Est-ce que vous êtes plus au courant de leurs problèmes ?
Oui, ça permet tout au moins de faire une étude de mœurs, quoi. De mieux connaître les classes. On apprend à connaître le paysan, l'ouvrier, mais en général, il n'y a pas quand même pas tellement à apprendre. Parce que dans le fond, on voit le paysan, l'ouvrier, on le voit dans un milieu qui n'est pas le sien.
Bon, il faut lui tirer les vers du nez, hein, Maxime Launay, à ce monsieur, mais le service militaire lui aurait permis de mieux connaître les classes. Alors, est-ce que on est d'accord que cette idée de brassage, elle a été largement, en tout cas en bonne partie, remise en cause par la recherche?
Oui, les chercheurs en sciences sociales sont un peu sceptiques à l'égard de cette idée. Rappelons que le service national a longtemps été considéré, disons depuis le début du XXe siècle, comme au cœur du pacte social, parce qu'il y a une forme d'amalgame géographique et sociale des conscrits sous le drapeau. On ne distingue pas les hommes en fonction de leur intellect, en fonction de leur origine. C'est vraiment un discours qui est très prégnant à la fois dans les milieux politiques, mais aussi très reçu dans l'opinion publique.
Mais ça, pardonnez-moi, en fonction de leur intellect, tout le monde sait bien que c'était faux. Le nombre de personnes diplômées, voire très diplômées, qui allaient enseigner à l'étranger plutôt que de faire leur service militaire dans la caserne d'une région française, il y avait bien une inégalité manifeste, là, fondée sur, non pas l'intellect en l'occurrence, mais sur le diplôme.
Bien sûr, et il faut objectiver cela. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les archives militaires, et comme l'armée est une magnifique bureaucratie, on peut retrouver aujourd'hui les archives du service national. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y avait une part, effectivement, des exemptés, donc c'est-à-dire ceux qui avaient des inaptitudes médicales. Mais en fait, ces inaptitudes médicales, on peut les augmenter ou les baisser en fonction des besoins. Donc si on veut plus de myopes, ben, on décide qu'il y ait plus de myopes. Il y avait aussi les sursitaires, c'est-à-dire ceux qui pouvaient, parce qu'ils étaient étudiants, retarder leur temps incorporation, et ça c'est aussi une façon de gérer l'offre et la demande. Et puis surtout, il y avait effectivement, vous venez de le dire, des dispositifs échappatoires, de type la coopération, donc on pouvait partir faire de l'humanitaire à l'étranger. Il y avait les scientifiques du contingent, si vous aviez un diplôme en sciences, on pouvait aussi vous mettre dans des laboratoires. Et puis surtout, il y avait ce qu'on appelait dans le beau langage administratif les affectations préférentielles, c'est-à-dire en fait le piston. Et le piston, moi j'ai retrouvé grosso modo, je calcule à peu près à 10% des appelés dans les années 70 qui pouvaient être pistonnés. Ça veut dire quoi? Si vous avez des réseaux, vous pouviez avoir un lieu plus confortable, par exemple en centre-ville si vous veniez d'une grande ville, tandis que d'autres qui n'avaient pas les ressources étaient envoyés par exemple dans une caserne en Allemagne, ce qui était quand même moins riant.
Comment expliquez-vous alors qu'aujourd'hui, Maxime Launay, l'opinion semble du moins plus favorable à un service national, à une forme de service militaire? Est-ce que c'est parce que le monde devient plus sombre et que la guerre s'approche de la France et qu'elle se situe aujourd'hui sur le continent européen?
J'en suis pas certain, parce que lorsqu'on regarde un petit peu les enquêtes d'un point de vue qualitatif, ce qui ressort des déclarations, c'est plutôt l'idée que le service national est une bonne chose pour encadrer la jeunesse, voire régler un certain nombre de problèmes sociaux.
Ce qui évidemment, c'est plus lié à la crainte de la jeunesse.
En tout cas, à un certain nombre de paniques morales, je pense, liées aujourd'hui à des questions de délinquance, à la gestion de quartiers problématiques. Et on pense que finalement, mettre des jeunes en uniforme, en les faisant marcher au pas, sera une façon de régler le problème.
Les militaires ne sont pas eux-mêmes très bavards, et pourtant, lorsqu'ils s'expriment, ils sont plutôt défiants à l'idée selon laquelle ils pourraient eux-mêmes venir corriger la jeunesse, que leur fonction auprès de la société française serait de corriger la jeunesse de France, de la rééduquer. Comment les militaires réagissent à l'égard de ce nouveau service national ?
À la fois, les militaires ont d'abord une mission combattante, c'est-à-dire de se préparer à la guerre et éventuellement à devoir la faire. Donc, c'est effectivement pas d'autres missions. Enfin, les missions d'autres types ne sont pas prioritaires. Pour autant, ils ont aussi une grande habitude de former les jeunes. L'armée recrute d'abord des jeunes de 18 à 25, 27 ans. Ils ont aussi la charge de dispositifs qui sont très peu connus aujourd'hui, comme le service militaire volontaire, qui concerne 1000 jeunes pour un dispositif d'insertion socio-professionnelle. Ils ont aussi, en outre-mer, ce qui est un dispositif plus important, ça concerne à peu près 7 000 jeunes. donne un service militaire adapté, qui est aussi pour une formation professionnelle. Donc ils ont aussi cette idée qu'ils ont un rôle social dans la société. Pour autant, effectivement, ils n'ont pas envie de revenir au service national d'antan, qui supposerait une classe d'âge de 750 000 à 800 000 jeunes.
En quelques mots, Maxime Le Mennais, est-ce que, par ailleurs, en outre, l'armée, du point de vue budgétaire, est prête à accueillir ces jeunes chaque année?
Alors, c'est un dispositif qui est appelé à monter en puissance. 3 000 jeunes dans l'immédiat, 10 000 dans quelques années, 42 500 d'ici 10 ans.
À partir de 2035.
Donc, il va falloir loger, nourrir, accueillir, former, instruire, armer. Ça va être un coût très important et je crois que c'est la raison pour laquelle cette proposition du président Macron va passer dans les mains des parlementaires et il y aura un vrai débat à avoir très prochainement.
Merci beaucoup Maxime Launay. Je rappelle que vous êtes historien, chercheur à l'IRSERM et l'auteur de cet ouvrage intitulé « La gauche et l'armée de mai 68 à nos jours », un ouvrage qui est paru il y a quelques semaines à peine aux éditions du Nouveau Monde. Merci d'être venu ce soir dans Questions du soir et merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rottier-Eken, à la réalisation Léa Racine.